Effectivement, on va prendre du temps pour être à l'écoute de Dieu au travers de sa parole. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles. On va lire un texte dans l'Évangile selon Luc. On a commencé notre lecture il y a quelque temps déjà de cet Évangile. On va le poursuivre au chapitre 9 et on va lire ces cinq versets ce matin. Du verset 51 au verset 56. Donc, Luc, chapitre 9, verset 51. Donc, je le lis. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il, c'est-à-dire Jésus-Christ, prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les disciples Jacques et Jean dirent: Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Il se tourna vers eux et les reprit sévèrement en disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre village. Dans sa prière, Henri a notamment parlé, voilà, de la violence et de la haine qu'on voit autour de nous. Et c'est vrai que j'ai noté dans les journaux de cette semaine quelques éléments qui mettent en avant cette exacerbation de la violence, cette multiplication de la violence autour de nous. Par exemple, quelqu'un a dit ceci: Je n'ai jamais senti une telle haine dans les regards. En fait, c'est un étranger qui se trouve en Chine actuellement, qui a dit ceci face à la crise du coronavirus. En début de crise, c'est les personnes avec des types asiatiques qui étaient rejetées dans nos pays. Certains se sont même fait expulser de métro. On n'allait plus dans les restaurants asiatiques. Et là, il y a un peu un retournement de situation. C'est avec la crainte d'un retour du coronavirus en Chine que les étrangers sont mis de côté. On a même des photos où dans le métro en Chine, il y a le métro qui est bondé, mais autour de la personne étrangère, il y a comme un rayon, un cordon de sécurité sanitaire. Violence, haine dans les regards. On a pu lire aussi qu'un pilote automobile de e-racing, parce que son casque ne marchait pas, a lancé une insulte raciste. Destruction, violence contre des personnes d'une autre couleur. Et plus proche de nous, en Argovie, on a pu voir qu'au cours d'une baston cette semaine, ce sont les pistolets, les couteaux, on nous dit, qui ont été sortis. Pour pas grand-chose, on s'emballe et on est prêt à détruire. La vie humaine n'a plus de valeur. Et c'est assez frappant quand on prend le temps de réfléchir. Que dans notre âge, notre époque, on aime bien se dire tolérant, accueillant, ouvert d'esprit. On veut lutter contre les discriminations, mais on est assez étonné, attristé de voir malheureusement toute cette violence, notamment dans ces articles. Mais la violence qui ressort le plus ces derniers temps, c'est la violence faite aux femmes et aux enfants, particulièrement en cette période de confinement. Il y a même au journal télévisé sur la France, la semaine dernière, il y a un artiste, Bruno Solo, qui est venu en parler pour encourager chacun à veiller à cela, à oser même en parler, appeler la police si on entend quelqu'un qui est maltraité, parce que dans ces temps de confinement, les personnes peuvent plus se taper dessus. Et effectivement, un article d'un quotidien vaudois a consacré toute une réflexion sur la violence conjugale. Et l'étude a mis en avant, et là je cite, que la violence conjugale touche tout le monde. Un responsable d'un centre pour aider les auteurs d'actes violents dit « Nous accueillons des jeunes, des retraités et des personnes de tous les milieux, autant des directeurs d'entreprise qu'un policier, un travailleur social ou un manutentionnaire sur un chantier. » Autrement dit, encore une fois, la violence est partout. Elle est dissimulée, mais elle est partout. Et cet article aussi poursuivait en affirmant avec un témoignage à l'appui que la grande difficulté pour ces auteurs aussi de violences conjugales, qui peut être autant physique que psychologique ou verbale, est en fait de se reconnaître violent. En fait, beaucoup sont dans le déni. On ne se voit pas violent. On n'a pas cette conception de soi qu'on peut être violent. On a le visage smart, l'attitude smart quand on est au travail, quand on est dans la rue. Mais cette violence ressort quand il y a une frustration, quand il y a quelque chose qui ne nous va pas, quand quelqu'un ou quelque chose vit quelque chose qui est à l'encontre de nous. On a du mal à se voir en face, à se voir tel que nous sommes, violents, racistes, insensibles, voire parfois suprémacistes aussi, et portés à notre seul profit, sans penser à quelqu'un. Alors, je ne dis pas qu'on est entièrement comme ça, qu'on est foncièrement mauvais, mais cette part existe dans nos vies. Et parmi les solutions qui s'offrent à l'homme, et il y a différents types de religions, de philosophies, de traitements, de psychologie, etc. La Bible, elle, fait le choix de ne pas nous laisser dans cet état de béatitude quelque part sur nous-mêmes. Mais elle nous donne une vision de l'être humain qui est d'un côté extrêmement sombre, mais d'un autre côté qui est extrêmement radieuse. Et ce côté sombre avec sa violence apparaît ici dans notre texte avec Jacques et Jean qui réagissent face aux Samaritains. Jacques et Jean sont des apôtres de Jésus-Christ, des grandes figures de l'Église primitive. Et certainement, Jean est aussi l'auteur de cet évangile qui porte son nom, des lettres de l'Apocalypse, même certains contestent cela, mais ce n'est pas grave. Et pourtant, alors que ce sont des colonnes, nous dit Paul en Galates, notamment pour Jean, parce que Jacques était mort, assassiné, Luc nous dresse ici un portrait très peu glorieux de ces hommes. En tant qu'apôtres, de grandes figures, ils ont souhaité la mort de personnes. Et ils étaient même prêts à prier pour que des Samaritains meurent. Extrême violence. Il faut savoir qu'à l'époque, les Juifs n'étaient pas en bon terme avec les Samaritains. Même pas du tout. Les uns et les autres s'accusaient mutuellement d'avoir trahi leur foi. Et je vais vous montrer une diapo, en fait. Je suis désolé, je viens de voir que j'ai laissé. J'aurais dû l'enlever. Ils s'accusent mutuellement d'avoir trahi leur foi. Et cela conduit à une haine féroce, au point que certains juifs refusaient de traverser la Samarie. La Samarie qui est là, et les juifs habitaient soit en Galilée, au nord de la Samarie, ou en Judée, au sud, ici, de la Samarie. Pardon. Et quand ils devaient aller de la Galilée à la Judée, notamment par exemple pour aller à Jérusalem où se trouvait le temple pour adorer, pour offrir des sacrifices, les Juifs n'aimaient pas spécialement traverser ce territoire, pas païen, mais quasi païen. Et donc, au lieu de prendre le chemin direct, on préférait traverser le Jourdain, aller en Transjordanie et le retraverser pour aller en Judée. On ne veut pas avoir contact avec les Samaritains. Et même, il y a un texte dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean, où les chefs insultent Jésus-Christ et lui disent « Tu es un Samaritain !» Donc, pour un Juif, être un Samaritain, c'est devenu une insulte, juste pour montrer à quel point il s'aimait. Et Jésus, ici, fait le choix de traverser. Et certains traversaient, effectivement. Hein, ce n'est pas Jésus qui est le seul à le faire. Flavius Joseph, historien juif de l'époque, nous rapporte qu'il n'était pas rare que quand des Juifs traversaient la Samarie, des bagarres éclatent et que cela conduise à des morts. Donc, tout ça pour montrer à quel point il y avait un grand amour entre nos Juifs et nos Samaritains. Et quand Jésus traverse ici la Samarie pour aller à Jérusalem et qu'il n'est pas reçu, Jean et Jacques se sentent offensés. Et leur haine pour les Samaritains avec laquelle ils ont été éduqués fait immédiatement ici surface en eux, au point qu'ils disent: Veux-tu que nous prions pour que le feu du ciel vienne les consumer, qu'ils soient morts? Et cette haine s'exprime vraiment dans cette version la plus dure qui soit la mort, souhaiter la mort de quelqu'un. Et par là, c'est aussi malheureusement leur compréhension de Dieu qui est dévoilée. Dieu n'aime pas les Samaritains. Dieu n'aime pas les étrangers. Alors on peut prier pour qu'ils meurent. Et l'histoire nous rappelle malheureusement qu'il y a eu d'autres versions comme ça, n'est-ce pas? Où on avait cette compréhension que Dieu a fait l'homme africain inférieur. Et à cause de cela, des pays soi-disant chrétiens se sont permis de les capturer, de les amener en esclavage et de leur faire vivre un enfer pas possible et même de les mettre à mort. Et ici, avec Luc, on arrive au paroxysme, au plus haut point de l'orgueil des disciples. Ils nous avaient commencé à nous faire pardon, vivre le rhume et les allergies saisonnières. Voilà, Luc nous amène à l'orgueil des disciples. Déjà, avec le texte qu'on a vu il y a 2 semaines, où Jésus, alors qu'il annonçait sa mort, disciples, eux, ne veulent pas comprendre. Ils n'ont pas de place pour un Messie, comme Jésus se décrit être, un Messie qui va souffrir et mourir. Alors, ils ne veulent pas comprendre, ils ne veulent pas poser de questions. Et dans la suite, alors que Jésus leur annonce qu'il va mourir, eux préfèrent discuter de qui est le plus grand. Ils sont plus intéressés par leur grandeur que par leur maître, qui leur annonce quelque chose de difficile pour lui. Toujours cela dans la suite, quand un homme fait du bien en chassant des démons dans le nom de Jésus-Christ, eux, ils l'empêchent. Non, non, il ne fait pas partie de notre groupe, alors on l'a empêché. Ils sont trop imbus de leur personne. Et ici, on arrive au pompon, ils sont prêts à demander la mort pour ceux qui ne les reçoivent pas. Tellement imbus d'eux-mêmes et insensibles à la personne même et à la mission de Jésus-Christ. Et ici, la Bible nous montre sans détour qu'au cœur de l'être humain, il y a une colère et une violence impressionnantes. Une colère et une violence qui conduit à la destruction face à ce qui est contraire et différent à nous. Alors, c'est vrai que pour la plupart d'entre nous, cette violence ne va pas jusqu'au meurtre, en tout cas j'espère, n'est-ce pas? Mais voilà ce que nous dit Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, voilà ce qu'on peut lire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc, même jugement, celui qui commet un meurtre ou celui qui se met en colère. Celui qui dira à son frère racaille, parfois c'est traduit par imbécile, stupide, sera justiciable du Sanhédrin, c'est-à-dire jugement, c'est le tribunal des Juifs. Celui qui dira insensé sera passible de la géhenne du feu. Donc Jésus ici est sans détour, n'est-ce pas? Nos insultes, nos propres rejets, les rabaissements, les moqueries dont nous sommes coupables sont tout autant mortels et destructeurs pour celui qui les entend. Et Dieu ne plaisante pas avec cela, notre texte montre, n'est-ce pas? On ne touche pas en vain à celui qui porte l'image de Dieu, à celui qui a été créé à l'image de Dieu. Et c'est vrai que parfois ce rejet n'est pas physique, n'est pas en parole, mais parfois on peut l'avoir en pensée, n'est-ce pas? On a pu souhaiter la mort de quelqu'un, ou le renvoi ou la mutation pour s'en débarrasser parce qu'on ne le supporte plus. Et combien de fois ça nous est arrivé de ne plus vouloir croiser quelqu'un, ou alors si on le croise, de se détourner, de ne pas vouloir le saluer, parce que pour nous, il est devenu une quantité négligeable. Et quelque part, socialement, on l'a considéré comme mort. Et parfois aussi, cette violence peut s'exercer contre nous-mêmes. On ne se supporte plus pour différentes raisons. On ne supporte plus notre faiblesse, voire peut-être notre petitesse ou notre manque de réussite ou notre physique par rapport à tout ce qu'on avait rêvé en termes de réussite, de physique ou autre. Alors, on use de violence contre soi, avec des pensées et des paroles rabaissantes, ou en s'abrutissant et se détruisant avec des substances, ou en s'enfermant dans la honte et en se coupant du monde. Et quelque part, c'est un peu cette même pensée qui habite Jacques et Jean. Je devrais être accueilli, j'ai droit à, je mérite ceci, je suis mieux que, je vaux mieux que, mais parce que je ne l'ai pas, je me détruis ou je détruis. Comme pour Jacques et Jean, l'être humain a une trop grande opinion de lui et cela conduit à la destruction. Et sous nos beaux vernis d'amabilité, de religiosité ou de tolérance, la Bible ici nous révèle sans détour que l'homme, en fait, est bien pire que ce qu'il croit. Premier regard qui est très sombre. Mais heureusement, ce n'est pas le seul regard. Regardez à nouveau le verset 51. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, il, Jésus, prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. On vient de fêter la Pâque, où il vient nous rappeler le récit de la Pâque avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, pardon, qui s'est offert en sacrifice. Et le texte nous montre que c'était à Jérusalem, là où Jésus se décrit d'après, s'oriente d'après le verset 51. Il y est allé pour le pardon de nos fautes. Et effectivement, à partir de ce verset 51, Luc oriente tout son récit vers Jérusalem. Et à plusieurs reprises, va nous montrer que Jésus s'oriente, Jésus veut, Jésus exprès va à Jérusalem volontairement, délibérément, pour s'offrir comme sacrifice. Et Luc met cela dans ce contexte de la description de l'orgueil des disciples. C'est à cause de l'absence de foi des disciples que Jésus monte à Jérusalem. C'est à cause de l'orgueil des disciples que Jésus monte à Jérusalem. C'est à cause de la violence, de cette haine, de ce racisme des disciples que Jésus monte à Jérusalem. Et non seulement pour les disciples, mais pour tous les hommes. Jésus monte à Jérusalem. Jésus s'oriente à Jérusalem face au pire de ce qui existe dans l'homme. J'ai regardé dernièrement ce film. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Million Dollar Baby avec Clint Eastwood, Hilary Swank et Morgan Freeman. Très bon film, très bons acteurs aussi. Et Hilary Swank interprète une femme qui a 31 ans au début du film, qui mène une vie vraiment misérable, qui ne connaît que le mépris et le rabaissement dans sa famille. La seule chose qu'elle a appris de sa maman et de ses frères et sœurs, c'est qu'elle ne vaut rien, strictement rien. Et à cause de cela, à partir de l'âge de 13 ans, elle a dû travailler pour s'en sortir, pour manger convenablement. Et au fait, elle montre qu'à 31 ans, ici, elle ne fait pas, elle ne vit pas, elle ne fait que survivre. Mais il y a une chose dans sa vie qui lui donne de la joie, une chose qui lui donne l'impression de vivre. Et c'est la boxe. Donc, elle boxe. Et elle demande alors à un entraîneur, Frankie, interprété par Clint Eastwood, de l'aider, d'intervenir, de la former pour justement vivre, pour se sentir vivre. Et face à son obstination, il va accepter alors qu'il ne voulait pas. Et il va même la mener vers des grands combats. C'est un film de fiction, hein, ce n'est pas une histoire vraie. Et dans ses combats, avant des grands combats notamment, il va lui offrir un peignoir de boxeur où il y aura écrit quelque chose en irlandais dans le dos, que tout le monde prononce Makushla. Et elle ne comprend pas ce que ça veut dire et lui refuse pour l'instant de lui dire ce que cela signifie. Alors, quand elle monte sur le ring, tout le monde crie son nom. Makushla, Makushla. C'est plus Maggie. Maggie, ça a été oublié. Maintenant, c'est Makushla, Makushla. Et quand elle va de victoire en victoire, tout le monde crie Makushla, Makushla. Et elle est heureuse dans ces moments-là. Ça montre aussi le côté sombre et la violence, d'ailleurs, ce film qu'il y a dans l'être humain. Mais suite à un accident, Maggie devient tétraplégique. Et elle demande à Frankie de l'aider à mourir, ce qu'il ne peut pas accepter. Mais voyant sa souffrance extrême et qu'elle est extrêmement diminuée, il va finalement accepter. Mais avant de l'aider à mourir, il va lui révéler finalement ce que signifie Makushla. Et ça signifie mon sang, mon amour. Il s'est tellement investi en elle, il a donné son temps, son énergie, son amour. Et par lui, celle qui ne valait rien, même à ses yeux, même aux yeux de sa famille, a trouvé de la valeur, a trouvé de la joie et a trouvé de la vie. Elle a enfin été aimée. Et Jean nous dit ici, Jésus va à Jérusalem pour appeler l'être humain Makushla, mon sang, mon amour. Mais pour lui, contrairement à Frankie de notre film, ça ne veut pas dire aider à boxer les autres personnes. Ça ne veut pas dire entourer de soins la personne juste extérieure, mais ça veut dire littéralement donner mon sang. Entièrement, jusqu'à ce que sa vie parte pour que la vie de l'homme soit préservée. Mon sang, mon amour. Et au travers de cela, Luc et Jésus nous montrent que face à nos violences, l'homme n'a pas besoin d'un ravalement de façade. Il n'a pas besoin d'une thérapie psychologique, bien que je n'ai rien contre, ça peut être une vraie aide. Mais ça ne suffit pas. Il a besoin d'une transformation en profondeur, une transformation radicale. Il a besoin d'une intervention extérieure. Pour Maggie, cette intervention extérieure a été Frankie. Pour Jean et Jacques, pour les êtres humains qui sont capables du pire, cette intervention extérieure, c'est Jésus-Christ qui donne son sang, sa vie, son amour. L'homme a besoin du pardon et de la réconciliation avec son Créateur, et Jésus-Christ est venu pour le faire. Sur la croix, Luc va nous conduire vers cela, vers cette compréhension que Jésus subit la punition de nos colères. Il subit la punition de nos haines, de nos violences, contre les autres ou contre nous-mêmes, afin de nous offrir le pardon et une nouvelle vie avec Dieu. Et ici, la croix et cette mention que Jésus s'oriente à Jérusalem pour mourir à cause de tout ce mal, la croix, pardon, jette un regard éblouissant sur l'homme. Il est aimé par Dieu jusqu'à ce point-là. Il est aimé par Dieu à la hauteur du sacrifice de Jésus-Christ. Et cet amour de Dieu, cet amour manifesté en Jésus-Christ, transforme les vies et désarme les haines et les violences les plus sombres. Effectivement, revenons à Jacques et Jean de notre texte. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, face à ce double regard sur eux-mêmes de cette haine violente et de cet amour immense de Dieu pour eux, Jean va être changé radicalement. On ne va pas le voir autant chez Jacques parce qu'il va être rapidement mis à mort par Hérode, mais on va le voir chez Jean, ce changement radical. Lui qui souhaitait ici dans notre texte la mort des Samaritains sera celui qui va aller voir effectivement qu'ils se sont convertis. Et au lieu de prier pour que le feu du ciel descende pour les consumer, cette fois, il va prier pour que le feu du ciel descende, mais pour les habiter. Le Saint-Esprit qu'ils peuvent recevoir grâce à la foi en Jésus-Christ. Jean est passé de la haine pour les Samaritains à l'amour pour les Samaritains, parce que lui a été aimé malgré la grandeur de sa haine, de sa violence. Il a été transformé par l'amour de Jésus-Christ. Et alors que son frère Jacques sera mis à mort par des païens, Jean ne va pas lui aussi rentrer dans une violence ou un désir de vengeance, mais va continuer à répandre l'amour de Jésus-Christ, même aux païens et même au prix de l'exil et de la persécution. L'évangile, l'amour de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ l'a changé de fond en comble. Cet amour, cet évangile offre de la valeur à tous, même aux anciens ennemis. Car la valeur ici de l'homme n'est plus dans le fait qu'il habite en Samarie, ou dans sa couleur, ou dans son origine, ou dans sa renommée, ou même dans sa bonne santé. Mais il a vu que la valeur est en Jésus-Christ seul. Et ce que Dieu a fait en Jean, on le verra plus tard aussi en Paul, même en Pierre, et dans tous les autres disciples, il veut aussi le faire dans tous les hommes, dans chacun d'entre nous. Et en effet, Luc... Pardon. Luc nous conduit dans ce chemin vers Jérusalem, et il va le répéter comme je l'ai dit, que Jésus-Christ s'oriente à Jérusalem, vers le sacrifice ultime, vers la démonstration de l'amour ultime. Mais Luc ne nous fait pas seulement cheminer à voir ce que fait Jésus-Christ, mais il embarque aussi les disciples. Et Jésus-Christ, par son sacrifice, vient transformer de manière radicale nos vies. Et il veut le poursuivre cela tout au long de notre vie, tout au long de notre chemin. Et ce chemin vers Jérusalem devient justement aussi le chemin de formation du disciple de Jésus-Christ. Dans chaque rencontre que Jésus-Christ va faire dans ce chemin vers Jérusalem, dans chaque enseignement, Jésus va exposer les faillites de l'être humain, les doutes, les mauvais raisonnements. Et c'est pour cela qu'il va à Jérusalem. La solution sera toujours la même. Il va à Jérusalem pour payer le prix de ces faillites-là qui sont mises en avant, de ces doutes-là, de ces mauvais raisonnements-là, pour nous transformer, pour nous faire grandir en tant que disciples. Autrement dit, la croissance dans la vie du disciple de Jésus-Christ n'est pas faite de mérite. Elle n'est pas faite de nos grandes actions. Mais elle est faite de la grâce de Dieu qui continue à se répandre toujours par le même moyen, Jésus-Christ qui meurt à Jérusalem. Alors avec ça, attention, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de notion d'effort ou de discipline. Pierre nous le dit, n'est-ce pas, de faire tous nos efforts pour joindre l'amour à d'autres choses à la fois, etc. N'est-ce pas? Il nous dit, faites tous vos efforts. Il y a cette notion de discipline. Mais il y a vraiment cette notion, cette différence entre l'effort et le mérite. On ne mérite pas. C'est un cadeau que Dieu fait. Mais justement parce que Dieu fait ce cadeau-là, alors on veut faire nos efforts, on veut prendre cette discipline pour vivre ce qu'il nous offre. Et là, cette croissance dans la vie du disciple se fait par la même puissance que ce qui a permis de commencer cette vie de disciple. C'est cette grâce déversée à Jérusalem par le sacrifice de Jésus-Christ qui vient nous transformer radicalement, qui vient nous réconcilier. Mais c'est cette même grâce, ce même sacrifice qui nous relève face à nos fautes. Cette même grâce, ce même sacrifice qui nous relève face à nos violences encore verbales ou physiques, face à notre laisser-aller, face à différentes faillites que Dieu va mettre en évidence tout au long de notre chemin sur terre. C'est toujours cette même grâce qui nous relève, qui nous purifie, qui nous pardonne, qui nous transforme et qui nous fait grandir. Et nos efforts et nos disciplines sont là parce qu'on a été conquis par cet amour-là, et pas pour le gagner, pas pour le mériter. Donc la Bible a vraiment ce double regard sur l'être humain. Un regard très sombre. Nous sommes pires que ce que nous croyons être. Et nous avons un profond besoin d'aide. Mais en même temps, un regard radieux. Nous sommes aimés plus que ce que nous méritons. Nous avons même une valeur bien plus grande que ce que nous comprenons. Et cela change nos vies. À cause de ce regard sombre, le disciple de Jésus-Christ ne peut pas se prendre de haut. Il ne peut pas mépriser les autres parce qu'il comprend que lui-même est capable du pire et que parfois ce pire, il l'a déjà commis, mais que parfois, il le voit encore en lui, malheureusement, avec ses faillites, ses échecs. Et à cause de ce pire dont il est capable, il ne peut qu'être humble et tendre la main et compatir et aider les personnes autour de lui. Mais en même temps, à cause de ce regard radieux de Dieu sur le disciple, sur l'homme, le disciple de Jésus-Christ ne peut pas ne pas ouvrir ses bras quelque part. Il ne peut pas être découragé. Quand il voit qu'il est méprisé dans sa vie, qu'il peut être agressé, qu'il est mis de côté, qu'il est l'objet de mépris, d'incompréhension, il peut être rassuré et affirmé, stabilisé, parce que sa valeur n'est pas dans le regard de l'autre. Mais sa valeur est dans le regard de Dieu, qui en a payé le prix à la croix de Jésus-Christ. Même dans le couple où parfois ça va mal, il peut ne pas jeter l'éponge. Il peut persévérer à prendre soin de son conjoint, ou de ses enfants, ou de ses parents, ou de ses collègues ou autres. Parce qu'il n'est pas rabaissé. Sa valeur a été démontrée. Ma couche là, a dit Jésus-Christ. Je vais donner mon sang, ma vie, pour toi. Et il peut refuser, grâce à cela, de rentrer dans ce cercle vicieux de la violence, de la colère et de la vengeance. Mais en puisant sa valeur en Jésus-Christ continuellement, il peut offrir à l'autre de la valeur. Il peut offrir à l'autre du bien. Et cela, effectivement, conduit à un autre regard sur les autres. En se rappelant que les autres aussi sont aimés de Dieu. Que Jésus-Christ veut aussi déverser son amour pour eux et transformer aussi leur vie. Alors, il n'a pas besoin de se séparer de ceux qui sont différents, de ceux qui pensent différemment, de ceux qui vivent différemment, de ceux qui ont une orientation différente. Mais il peut les accueillir, parce qu'eux aussi ont été créés par Dieu, et eux aussi, pour eux aussi, Jésus-Christ est venu. Alors, ça ne veut pas dire tout accepter, faire comme si de rien n'était. Mais c'est accepter l'être humain tel qu'il est, vivre avec lui, auprès de lui, et rester ce témoin fidèle de Jésus-Christ. Mais ta valeur n'est pas dans ton orientation sexuelle. Ta valeur n'est pas dans ta bonne santé ou ta mauvaise santé. Ta valeur n'est pas dans ta réussite ou dans ton échec. Mais je veux te voir différemment, dans le regard de Dieu pour toi en Jésus-Christ seul. Un regard très sombre sur l'être humain, mais un regard radieux qui est vrai pour le disciple. Et parce qu'il est vrai pour le disciple, il peut l'offrir aux autres. Je vous invite à prier.